Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Ardiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5. Et l'émission est en podcast ensuite sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Axel Tolins. Bonjour.
Bonjour.
Axel Tolins, tu es quand même une des personnes qui est depuis le début de l'aventure de la radio présente dans l'équipe et en tant que bénévole, technicien. Et tu es ici aussi pour nous parler d'une nouvelle aventure pour toi, c'est la Cosmo Odyssey. Et donc tu seras l'animateur en astronomie. Pourquoi cette proposition de Cosmo Odyssey et puis à qui s'adresse-t-elle ?
Alors voilà, oui, c'est une micro-entreprise que je viens de lancer, une nouvelle aventure comme tu dis, qui débute. Avec cette structure, je souhaite proposer des animations, on peut dire des initiations à l'astronomie, pour diffuser les connaissances au plus grand nombre, les connaissances astronomiques accumulées depuis des milliers d'années maintenant par l'humanité. Et donc pour ça, j'aurai déjà un outil pédagogique très simple mais très efficace qui est un pointeur laser qui me permettra de montrer les constellations, les étoiles aux gens et voilà, leur raconter l'histoire des constellations, pourquoi elles portent tel ou tel nom, des choses comme ça. Voilà, donner un peu des notions de distance, d'ordre de grandeur cosmique. Et en seconde partie de soirée, je proposerai d'observer à travers mon télescope qui est relativement conséquent et qui permet d'avoir des bons détails sur les objets célestes qui nous entourent. Voilà, et donc je voudrais proposer ça autant aux particuliers directement chez eux, chez vous, à ceux qui m'écoutez, si le lieu s'y prête, et également... Également à des structures comme des campings, les centres de vacances, des choses comme ça.
L'astronomie, c'est une passion qui t'a prise très jeune ?
Oui, c'est une passion de longue date. Ouais. Après, en termes de pratique, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, 3 ans maintenant. Mais par contre, la théorie, si on peut dire, m'intéresse depuis... des années et des années. Ouais.
Ces étoiles dont nous sommes héritiers, hein, puisque nous sommes composés de poussière cosmique,
ouais.
Est-ce que en toi opère une espèce de magie, de cette inaccessibilité, mais en même temps visible, mais de quelle époque aussi, hein, parce que les étoiles, ce sont des lumières qui ont été émises il y a des millions d'années, ou voire des milliards d'années, et qu'elles arrivent seulement aujourd'hui. Pour toi, est-ce que tu y trouves une magie ?
Oui, bien sûr. Il y a un côté magique, ouais, bien sûr, d'observer ça. Ça amène beaucoup d'humilité, je trouve aussi, d'observer, comme tu dis, des lumières qui ont traversé le vide cosmique depuis des millions d'années. Et c'est vrai que c'est un domaine pour moi, l'astronomie amateur, comme ça, on appelle ça l'astronomie amateur, qui n'est pas scientifique, qui n'est pas professionnelle. C'est un domaine qui est à la croisée entre la science, mais aussi la philosophie, la poésie, un peu. Ouais, y a une part de rêve, bien sûr. Ouais.
De là à dire que toutes les lumières d'étoiles se convergent en nous-mêmes, est-ce que c'est que tu crois possible ?
Mais oui, on dit parfois qu'on est des poussières d'étoiles, parce qu'il faut savoir que les étoiles sont, entre guillemets, des grosses machines, des grosses usines à transformer la matière, à créer la matière même. On part au début de l'univers, donc de ce qu'on connaît, ce qui nous est accessible pour l'instant en tout cas. On sait qu'au commencement, il y avait énormément en abondance de l'hydrogène et un petit peu d'hélium. Alors l'hydrogène, c'est l'élément le plus simple, puisqu'il est composé de seulement un proton et un électron. Et les étoiles font des réactions nucléaires et combinent ces éléments. Donc en combinant deux atomes d'hydrogène, on crée un atome d'hélium. En combinant de l'hélium et ainsi de suite, on arrive comme ça à tous les éléments qu'on connaît, tous les éléments du tableau périodique, et donc tous les éléments qui nous composent, nous, et la matière qui nous entoure.
Tu t'es certainement appuyé aussi sur la littérature liée à l'astronomie ou aux sciences physiques. C'est un sujet qui te passionne aussi ?
Oui, bien sûr, et je vais délivrer toutes les connaissances que j'ai emmagasinées par mes lectures, par des conférences auxquelles j'ai assisté, des rencontres de gens plus qui sont vraiment dans le milieu, des scientifiques que j'ai pu rencontrer, qui amènent des échanges intéressants. Et du coup, ouais, je vais essayer de délivrer ça au mieux, de diffuser ça complètement.
Justement, parmi tous ces scientifiques ou ces chercheurs d'étoiles, est-ce qu'il y a certains ouvrages qui t'ont bouleversé ou qui t'ont... Non ?
Attends. Il y a le travail de Carl Sagan, qui était un animateur... alors c'était un scientifique, mais qui est aussi très connu pour son travail de médiation, de vulgarisation, qui était américain et qui a lancé à l'époque, alors je dirais dans les années 70 ou 80 je crois, une série télévisée qui s'appelait Cosmos, c'est ça.
Une série qu'on peut peut-être visionner de nos jours sur certains sites internet.
Oui, alors, en fait elle a été reprise récemment, il y a 3 ans, par un autre vulgarisateur, un de ses élèves, qui s'appelle Neil deGrasse Tyson, un astrophysicien américain aussi. Et donc il a relancé cette série. Donc elle, la nouvelle version est facilement accessible sur Internet. Elle est même diffusée sur la TNT, mais alors je ne saurais plus dire sur quelle chaîne précisément. Mais Cosmos s'appelle.
Alors, tu proposes une observation des étoiles, du ciel, auprès de particuliers ou d'autres structures aussi. Comment se déroulerait donc cet aspect-là ? Tu l'as expliqué rapidement au début, par exemple avec
un pointeur laser.
Un pointeur laser, tu peux m'expliquer comment est amené ce pointeur laser dans cette présentation ?
Oui, c'est un outil formidable en fait, puisque c'est un grand faisceau laser vert. Vous connaissez tous, je pense, les petits pointeurs laser qui font un point rouge là où on pointe. Là, on voit le faisceau entier et il est projeté sur plusieurs kilomètres, ce qui permet quand on est rassemblé autour d'avoir l'impression qu'il pointe vers l'infini et donc de pointer les étoiles. Et c'est très pratique pour montrer telle ou telle étoile ou telle constellation, plutôt que de dire « voyez cette étoile, non, pas celle qui brille, l'autre à côté ». Enfin, voilà, c'est toujours compliqué. Alors qu'avec ça, c'est direct. Ouais. C'est réglementé.
Oui.
Ouais, il y a des puissances réglementées,
d'accord,
des usages réglementés, et notamment l'astronomie en fait partie. Ouais. Il y a une tolérance.
Toi, en tant que particulier ou amateur, hein, ouais, en quelque sorte, mais ceci dit, ça ne durera pas si tu deviens un professionnel. Oui. Donc, il y a cette exigence légale d'avoir une accréditation pour posséder ce type de pointeur laser.
Il n'y a pas de demande à faire en particulier, mais c'est pas impossible qu'un soir il y ait la gendarmerie qui arrive et pour voir d'où vient ce faisceau laser, et il y a cette tolérance, ouais, s'ils voient que c'est pour un projet d'astronomie, d'éducation, normalement il n'y a pas de problème. Après, il faut savoir s'en servir. Alors déjà pour les gens autour, évidemment, pas pointer dans les yeux, pas pointer vers le sol, tout ça. Et pas pointer vers les avions aussi, parce que ça projette assez loin pour pouvoir embêter les pilotes d'avion. Si ça fait un reflet sur une vitre et que tu rends aveugle le pilote, ça serait un peu dommage. Donc voilà, faut s'en servir avec parcimonie quand même.
Alors cette idée pour toi de proposer ce visionnage du ciel, t'es venu comment est-ce que tu sens que c'est dans l'air du temps aussi, d'un intérêt croissant du public sur l'astronomie?
Je dirais que ça m'est venu simplement en fait avec mon télescope. Je me mettais devant chez moi, juste je le sortais dans la rue comme ça pour observer. Alors parfois la nuit, mais des fois en fin d'après-midi ou début de soirée, on peut commencer à voir quand on a la lune de jour par exemple, ou certaines planètes qui commencent à être visibles entre le jour et la nuit. Et voilà, et donc les passants qui étaient là dans la rue souvent s'arrêtaient, me regardaient d'un air curieux, interrogateur. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Qu'est-ce que vous observez? Et donc spontanément je leur proposais d'observer et à chaque fois ça amenait à des échanges vraiment, vraiment sympathiques et intéressants, profonds parfois. Et souvent les gens, je leur proposais de regarder, puis je regarde vite fait, j'ai 5 minutes, et puis en fait ils finissent par rester une demi-heure et observer plein de choses, à poser plein de questions, et je trouvais ça formidable. Et c'est la démarche à la base, enfin à la base. Moi, ça m'est venu comme ça, mais j'ai appris après qu'il y a un Américain qui s'appelait, je crois qu'il est mort, à son âme, John Dobson, qui a créé un type de télescope qu'on appelle les Dobson, qui ont pris son nom. C'est celui que j'ai. Et c'était sa démarche aussi, lui, de diffuser tout ça, de rendre l'astronomie accessible. Du coup, il a créé un modèle télescope assez bon marché, accessible financièrement. Et dans sa démarche, c'était aussi de se déplacer dans la rue aux États-Unis. Alors lui, on connaît les Américains pour leur sens de leur démesure. Donc il avait un télescope énorme qui déplaçait sur une remorque et qui posait dans la rue. Il proposait aux gens d'observer. Et j'ai repris ce concept un peu sans y réfléchir un peu, ça m'est venu naturellement. Mais je me suis rendu compte après qu'il faisait ça déjà à l'époque, qu'il a été connu pour ça, ce monsieur Dobson. Tu me demandais si c'était dans l'air du temps. Je pense que oui. Je pense que je ne saurais pas dire si c'est suite à la crise qu'on traverse ou au premier confinement qui a été très lourd l'année dernière. Où les gens ont eu un besoin d'évasion, de retour à quelque chose de plus fixe, de plus éternel, je sais pas. Mais en tout cas, je suis en partenariat aussi avec un observatoire qui est dans le sud de la Drôme, qui est un observatoire qui est uniquement dédié à la pédagogie et à l'accueil du public. Donc là, on peut y aller et réserver une soirée pour un groupe d'amis ou individuellement, et pareil, observer le ciel grâce aux instruments de l'observatoire. Et donc eux, ils m'ont dit que ça fait 6 ans qu'ils sont ouverts, mais qu'ils n'ont jamais eu autant de monde que l'année dernière. Donc ils ont vraiment senti une influence, une demande plus forte l'année dernière. Et puis il y a aussi tout récemment l'astronaute français Thomas Pesquet qui est retourné dans la station spatiale internationale au mois d'avril. Et je pense que pareil, ça remet un peu tout ce domaine sur le devant de la scène. Voilà.
Je reviens à ce que tu disais par rapport au public qui s'arrêtait lors de tes observations dans une rue, par exemple. Est-ce que souvent, quel astre était sollicité ou était sollicité pour être observé?
Ah bah, la Lune. Très souvent la Lune, puisque tout le monde la connaît, on l'observe à l'œil nu facilement. Et pour ceux qui ont des jumelles, d'ailleurs, si vous n'avez jamais eu l'idée de pointer vos jumelles sur la Lune, c'est déjà assez, assez fascinant. Du coup, oui, souvent, la Lune était très, très plébiscitée. Après j'essayais toujours de pointer Alors quand c'est possible, parce que des fois elle est basse derrière l'horizon, mais la planète Saturne, qui est personnellement ce qui m'a vraiment lancé dans l'astronomie amateur, dans l'observation, parce que c'est vraiment merveilleux. On la connaît tous, enfin pour la plupart j'imagine, on la connaît en photo, dans les livres ou quoi, avec cette planète avec son anneau autour, c'est vraiment emblématique. Si on demande à un enfant de dessiner une planète, il y a de grandes chances qu'il dessine une planète avec des anneaux. Et donc voilà, j'aime bien montrer Saturne quand c'est possible. C'est vraiment une vision merveilleuse. Ouais.
D'ailleurs, pour observer la Lune, on peut se rendre compte aussi de son déplacement à travers le télescope.
Oui.
Est-ce que tu utilises un appareillage qui permet de suivre aussi sa trajectoire dans son observation ?
Oui, c'est vrai que pour il existe des montures ou des systèmes pour compenser la rotation de la Terre et donc garder dans l'oculaire du télescope l'objet en question, que ce soit la Lune ou autre. Alors j'en ai un, je l'utiliserai, mais je ne l'utiliserai pas tout le temps parce que j'ai remarqué que les gens sont souvent surpris justement de voir l'objet se déplacer dans le champ de l'oculaire. Et souvent ils me disent, par exemple pour la Lune, elle bouge super vite, elle est déjà partie, oh, c'est fou comme elle va vite. Et à chaque fois je leur dis, non, elle ne bouge pas, c'est la Terre qui bouge. Ah bon, alors, précisément la Lune bouge un peu, mais dans l'espace de quelques secondes, c'est pas perceptible. Mais par contre, ouais, ça permet de se rendre compte de la rotation de notre planète, qu'on ne ressent pas du tout physiologiquement. Mais là, ça permet d'en avoir un aperçu assez impressionnant. Ouais.
Et j'imagine que pour des astres plus éloignés, c'est encore plus terrible, non ? À suivre ?
Non, très, très peu. En fait, pour la Lune, effectivement, comme elle bouge, pour donner un ordre d'idée, la Lune, sur une nuit, elle va se déplacer de deux fois son diamètre. Si on la regarde, si on regarde la Lune à son lever et qu'on prend une étoile à côté pour repère, on la regarde à la fin de la nuit, à son coucher, elle va être décalée d'à peu près deux fois son diamètre propre. Donc pour la Lune, on peut avoir des systèmes de guidage, de suivi précis, en particulier pour elle, quoi. Après, pour tout ce qui est plus loin, que ce soit les planètes du système solaire qui sont relativement proches ou des objets très lointains comme des galaxies, là, ce sera le même suivi qu'on va utiliser et qui sera juste compenser la rotation de la Terre.
Et justement, avec ces observations, est-ce que tu lis le numérique avec ta lunette astronomique ?
Non, moi, pas du tout. C'est vrai que Il y a différentes branches, différents domaines un peu d'observation, enfin ou même d'astronomie amateur. On a les deux grandes branches, si tu veux, c'est l'observation, le visuel, on appelle ça. Donc c'est ceux qui vont vraiment coller l'œil au télescope et observer en direct. Et puis on a l'astrophotographie, que je pratique pas du tout, mais qui là on va mettre un capteur, un appareil photo ou un capteur dédié là où on mettrait son œil. Et lui va collecter de la lumière pour en sortir une image ensuite, ou un film des fois. Et après, entre les deux, il y a une petite branche qui se développe petit à petit, qu'on appelle le visuel assisté, où on va mettre un capteur déporté sur un écran pour observer quand même en direct. C'est pas dans le but de faire une photo qu'il va falloir traiter pendant des heures ensuite. Là, c'est vraiment, on observe en direct. Et donc, avec ça, on peut envisager des projections, par exemple, sur un gros événement où il y aurait des dizaines de personnes. Ça pourrait être pertinent d'utiliser le visuel assisté et de projeter ce qui rentre dans le télescope sur un écran. Après, moi, je m'oriente plutôt sur des groupes de 15, une quinzaine de personnes, 20 personnes maximum, donc ce qui permet de tourner, que chacun puisse venir mettre son œil à l'oculaire et observer en direct. Je trouve que c'est une, je sais pas, la magie opère plus facilement comme ça, quand on a vraiment quand on se dit que le photon qui rentre dans notre œil à ce moment-là, comme tu dis, a fait des millions de kilomètres, si on regarde une galaxie par exemple, c'est toujours impressionnant, plus impressionnant qu'en photo, je trouve.
Je viens aussi sur le sujet de Starlink, je ne sais pas si tu connais
bien
ce
sûr,
projet.
Ouais.
Alors c'est Elon Musk. Hein,
oui, c'est
voilà.
Ça.
Elon Musk qui propose donc d'envelopper la Terre en quelque sorte de 60 000 satellites qui permettraient de relayer l'information numérique au travers de l'espace. Mais il y a quand même une grande réaction du niveau des astrophysiciens qui déplorent cette pollution que ça provoque au niveau de l'observation des étoiles. Quel est ton point de vue sur ce sujet d'ailleurs aussi?
Oui, c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, une grande part, si ce n'est la totalité de la communauté des astronomes et astrophysiciens qui voient ça plutôt d'un mauvais œil. Parce que ça peut gâcher les observations, en fait. Ça fait de la pollution, ouais, comme tu dis. C'est le mot. Moi, je me souviens quand j'étais petit, et je ne suis pas très vieux encore, mais c'était assez rare de voir un satellite. C'était un petit événement. On était presque contents.
Je me souviens du Skylab à l'époque, dans les années 70. Hein. On nous informait de son passage au-dessus de la France, par exemple, et qu'on pouvait observer,
c'est ça,
effectivement.
Voilà. Et pendant une observation, si dans l'été, vous vous allongez au bord de la Drôme ou autre et que vous regardez le ciel, il y a 20 ans, c'était « Ah, un satellite !» Et voilà, on en avait vu un dans la soirée, c'est un amusement. Maintenant, ça devient une nuisance, plutôt. Ouais. Et Elon Musk, avec son projet Starlink, alors je vais sans rentrer dans le détail de si c'est bien, si c'est utile ou pas. En tout cas, oui, ça amène une certaine pollution qui est très peu gênante pour moi personnellement et pour les animations que je vais proposer, puisque en visuel, on regarde un champ très, très, très restreint à l'oculaire, donc il y a peu de chances qu'un satellite passe dedans, et s'il passe, bon, ça dure une demi-seconde. C'est pas très gênant. Par contre, pour ceux qui font de la photo, là, ça devient plus gênant parce que quand ils prennent de la photo, ils peuvent utiliser des champs plus grands et utiliser des temps d'exposition très longs. Voilà, faire des fois une photo, ça peut être plusieurs heures compilées en une seule image, plusieurs heures de captation. Et donc là, s'il y a un objet qui traverse le ciel à ce moment-là, il se verra à la sortie. Et pour les professionnels, c'est pareil avec les énormes télescopes qu'on a, on ne peut pas s'affranchir de ça. Il n'y a pas de solution pour gommer le passage de ces satellites, le trait de lumière que ça engendre sur une photo, et donc ça réduit encore la fenêtre d'observation disponible, parce que pour faire des observations pour les scientifiques, enfin pour tout le monde, il faut qu'il fasse nuit, donc déjà c'est que la moitié du temps, enfin ça dépend de la période de l'année. Et si en plus il faut attendre 2-3 heures après le coucher du soleil que les satellites ne soient plus visibles, parce qu'au cœur de la nuit, on les voit plus, c'est vraiment au coucher, et un peu après le coucher, un peu avant le lever du soleil, que c'est gênant. Mais donc voilà, ça réduit encore la fenêtre d'observation disponible.
D'ailleurs, on peut les observer parfois, hein, en train, comme ça.
Oui, au lancement.
J'en ai vu l'année dernière, ils étaient 14 successifs à se suivre. C'était un peu cauchemardesque, je trouve. C'était assez, comment dire, assez effrayant, je dirais.
Oui, c'est irréel un peu. Ouais. Et moi, je suis tombé dessus une fois, vraiment une semaine, quelques jours après le lancement, parce qu'ils sont lancés avec une fusée à chaque fois par grappe de 60, je crois. Et donc, pendant une semaine à peu près, ils sont vraiment tous à la queue leu-leu. Ça fait une grosse guirlande qui se déplace en formation, comme ça, comme une chenille. Après, petit à petit, ils prennent chacun leur orbite définitive, donc ils s'éparpillent un peu. Mais ça reste quand même un problème. Alors, Elon Musk, enfin lui ou son équipe, peu importe, ont annoncé qu'ils allaient essayer de réduire la brillance, la réflectivité de ces objets. Après, ça reste des panneaux solaires, il n'y a pas 36 000 façons de faire des panneaux solaires et ce sera toujours brillant.
Alors, ce projet de Cosmodyssée, comment... comment est-il encouragé en plus de toi? Quel soutien as-tu eu pour lancer cette micro-entreprise?
Alors je peux remercier l'ADI, qui est une association, l'acronyme si je ne me trompe pas, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique, qui est une association nationale mais qui a des antennes un peu partout, et ici elle est située à Valence pour la Drôme, et donc elle permet d'accéder à des microcrédits et aussi à des subventions de la région. Donc ça, c'était une bonne aide. J'avais déjà le matériel d'observation, mais il fallait que je m'équipe aussi d'un ordinateur et d'un vidéoprojecteur pour pouvoir assurer les animations en cas de pluie, notamment pour les campings ou les choses comme ça, pour pouvoir quand même, à défaut d'observer, pouvoir faire une présentation. Et donc voilà, je remercie l'ADI pour ça. J'ai eu aussi du soutien de la communauté de communes avec Fanny Mazur notamment qui est chargée du développement de l'accompagnement des porteurs de projets sur le territoire d'Iwa. Il y a aussi sur Oust l'IVDD, l'initiative Val de Drôme, avec Nicolas Cobé qui m'a été de bons conseils pour affronter quand même cette création d'entreprise, que je n'avais jamais fait ça avant. C'était vraiment intéressant et utile d'être suivi comme ça par ces personnes compétentes.
Je reviens un peu sur l'observation des étoiles.
Je peux rajouter. Et je peux aussi rajouter et remercier l'observatoire que j'ai mentionné juste un peu plus tôt. L'observatoire Claude Tavenier, le Cosmodrome, qui est situé à Céderon, dans le sud de la Drôme, avec qui je vais travailler aussi, faire des animations là-bas cet été, et qui m'ont été d'un bon soutien, de bons encouragements, de bons conseils, parce qu'un des animateurs qui officie là-bas a fait déjà ça par le passé et se relance à peu près en même temps que moi, là. Il avait fait une pause, enfin bon, je passe les détails, mais voilà, quelqu'un qui avait déjà fait exactement ce que je propose, de se déplacer avec des instruments et avec son envie de partager. Et donc, évidemment, il a été de très bons conseils. C'est un concurrent, on pourrait dire, mais c'est surtout un collaborateur, un collègue de bons conseils.
En plus des astres, il y a les galaxies. Est-ce que tu peux en observer avec une certaine définition?
Oui, bien sûr. En termes d'objets observables et accessibles avec le diamètre de mon télescope, il y a alors évidemment les planètes de notre système solaire. J'ai parlé un peu de Saturne tout à l'heure. Il y a aussi Jupiter qui est très, très intéressante à regarder. Sur laquelle on peut distinguer des formations nuageuses. On a une tempête qui est assez connue, qu'on a appelée la Grande Tache Rouge de Jupiter, qui est une sorte de cyclone qui fait presque le diamètre de la Terre et qui est actif depuis la première observation, depuis au moins la première observation de Jupiter il y a 300 ans maintenant presque. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Mars, qui est plus difficile à observer, qui est plus petite que ces deux géantes gazeuses dont je viens de parler. Mais avec mon télescope, je peux quand même observer sur Mars des formations rocheuses. Il y a une sorte de grand canyon, de grande faille sur Mars qui est observable, la calotte polaire aussi. Ensuite, en sortant du système solaire, on a dans notre galaxie, on a des nébuleuses, donc des énormes nuages de gaz qui prennent des formes diverses et variées selon leur nature, selon comment elles se sont formées. Souvent, ça va être des étoiles en fin de vie qui explosent, qui éjectent leur matière, et ça donne des rémanents comme ça qui sont vraiment vraiment intéressantes, vraiment vraiment chouettes à regarder. On a ensuite des amas d'étoiles, ça c'est des groupements d'étoiles dans une zone très restreinte de l'espace, avec une densité très forte, et pareil, qui vont prendre des formes souvent sphériques, mais un peu arachnéennes des fois. Les amas d'étoiles. Et puis après, si on sort de notre galaxie, on peut observer d'autres galaxies, parfois des groupements de galaxies. Et, la plus connue et la plus proche de la nôtre, c'est la galaxie d'Andromède, qui est spectaculaire au télescope, par sa taille relative, par sa proximité en fait. Et on observe aussi autour de toutes petites galaxies, enfin toutes petites relativement, en des termes astronomiques évidemment, qui orbitent autour d'elles, voilà, des compagnons d'Andromède, et après des galaxies plus lointaines, plus âgées, qui prennent des formes diverses et variées aussi.
Est-ce que parfois, toi, en tant qu'astronome amateur, et peut-être même professionnel, on peut dire, est-ce que vous vous retrouvez avec d'autres pour observer, vous échanger aussi des données ou des impressions ?
Oui, bien sûr, il y a deux principaux forums sur Internet de partage, de conseils, de... Les astrophotographes viennent partager leurs photos qui nous émerveillent tous. Voilà. Physiquement, on se réunit aussi pour ce qu'on appelle des star parties, des rencontres d'astronomes, où chacun vient avec son équipement. Selon les rencontres, ça peut durer un soir, deux, trois soirées, et pour les plus grandes, plusieurs semaines, sur le secteur d'Iwa. Dromois même, on a la plus grosse qui est à Valdrome tous les ans depuis 15 ans maintenant, qui s'appelle Astrociel, qui est organisée par la Société Astronomique de France, l'une des deux plus grosses associations d'astronomes en France. Donc ça c'est vrai, tous les ans, au mois de fin juillet en général. Alors il faut savoir que ces rencontres, ces festivals si on peut dire, sont toujours calés en fonction des lunes. Parce que pour observer au mieux le ciel profond, les nébuleuses, les galaxies, tout ça, on observe à la nouvelle lune, donc quand il n'y a pas de lune dans le ciel. Sinon, sa lumière pollue un peu les observations, gêne nos observations. Donc voilà, c'est des festivals qui bougent un peu d'une année à l'autre au niveau de la date pour s'accorder à la lune. Donc voilà, Astrociel, on a aussi à Astrociel, ça réunit une centaine d'astronomes sur deux semaines. C'est ouvert au public gratuitement. Vous pouvez venir et observer une soirée en solitaire, en famille, comme vous voulez. Voilà. Et puis on a aussi, à une échelle un peu plus petite, mais à la même convivialité, à Marignac. On a une association présidée par Bernard Cellier, qui tous les ans, depuis 5 ans, je crois, ou 6 ans peut-être maintenant, organise les rencontres astronomiques de Marignac. Ça s'est appelé, passé un temps, le Fête des étoiles de Marignac. Voilà, donc c'est le même principe. Et quelques astronomes qui se réunissent, qui proposent à tout le monde de venir observer. Des fois, il y a aussi des conférences, des jeux, des reproductions à l'échelle du système solaire pour se rendre compte un peu des distances, des choses comme ça.
Est-ce que parfois aussi tu assistes à des cours donnés par des scientifiques ou alors même, je ne sais pas si il est possible de les trouver, mais des enregistrements de cours de la Sorbonne par exemple sur l'astrophysique ou l'astronomie, tu écoutes ce type de documents?
Oui, il y a des conférences retransmises par Internet, sur YouTube notamment, à Astrociel aussi, aux rencontres de Valdrome. Toutes les après-midi, on a un intervenant, un conférencier, souvent, majoritairement même des professionnels, des astrophysiciens qui viennent de l'Institut d'astrophysique de Paris ou voilà, des choses comme ça. Et qui viennent parler de leur sujet d'expertise. Il y en a qui vont parler des comètes, d'autres des télescopes, des méthodes, des techniques d'observation. Voilà, enfin, il y a vraiment une variété d'intervenants. Donc ça, j'y suis tous les ans, toutes les après-midi, à écouter ces passionnés. Même, c'est leur travail, mais ça reste des passionnés, en général.
Un peu fou aussi, non?
Oui, ça arrive. Ouais,
J'en connaissais un à Paris qui avait des idées un peu étranges, ouais.
Oui, ça arrive qu'il y ait des je dirais pas des farfelus, mais des gens vraiment pointus et qui pensent plus qu'à ça, presque, ouais. On peut dire ça.
Tu disais donc de proposer des observations en itinérance auprès de particuliers ou lors de festivals peut-être aussi. Et pour ça, est-ce que tu possèdes un véhicule et auquel tu aurais aménagé cet espace d'observation?
Pas spécifiquement, non. Je vais utiliser mon véhicule personnel. Non, c'est tout.
Non, j'imaginais un utilitaire transformé de manière à observer depuis l'intérieur du véhicule,
ah oui,
partout temps, ou même d'être dans une obscurité aussi, de manière à mieux percevoir les choses, peut-être.
Oui, c'est vrai que c'est des projets qui existent au niveau des astronomes amateurs. Certains se font des observatoires mobiles, comme ça, que ce soit dans un utilitaire, comme tu disais, ou sur une remorque, des fois. C'est pas dans mes projets, non. En termes d'évolution, moi, j'envisage de m'équiper pour observer le soleil, pour permettre l'observation du soleil, ce qui permettrait de proposer des prestations en journée. Ce qui serait par exemple pratique pour les écoles, pour les enfants, des fois, qu'on va pas faire veiller jusqu'à minuit. Donc, l'observation du soleil qui peut être intéressante. Il y a aussi des observatoires, des planétariums, voilà, je cherchais le mot, des planétariums portatifs, gonflables en général. Une sorte de grosse tente où on peut rentrer à 15-20 personnes et projeter sur le plafond. La voûte céleste, et donc ça pourrait pallier à une météo défavorable, ou aussi pouvoir proposer ça en journée, sur des lieux, sur des festivals par exemple. Ça peut être, c'est dans mes projets à long terme, à moyen terme, on va dire.
Toutes ces observations, est-ce que par là tu les proposes aussi en visionnage sur un site ou un blog internet?
Non, pas du tout. Alors j'ai créé une page Facebook pour mon entreprise, mais j'ai pas du tout vocation à l'imager avec mes observations, puisque comme je disais en début d'interview, je suis pas du tout compétent et porté sur l'astrophotographie, à la captation d'images. Je vais me contenter de l'observation en direct, en visuel. Ouais. Donc j'aurai pas beaucoup de support à partager ensuite en ligne.
Tu parlais justement de cette page de réseau social sur lequel tu informais un peu tes abonnés, hein, on peut dire, sur ton activité. C'est aussi le moyen de connaître tes coordonnées.
Oui, c'est exactement. Et toutes les infos pour me contacter qui sont sur cette page. Donc, je rappelle le nom, la page Cosmodyssée. C'est le nom de l'entreprise. La contraction de Cosmos et Odyssée, puisque c'est vraiment une invitation au voyage, ouais, à l'aventure presque. Ouais. C'est assez extraordinaire. Donc, Cosmodyssée, la page Facebook. Vous pouvez me trouver sur Google, évidemment. Je peux donner mon numéro de téléphone aussi, si vous voulez me contacter directement par téléphone. Au 06 31 14 75 69 ou par mail à contact.cosmodyssée@gmail.com. Cosmodyssée écrit à l'anglaise, Odyssée, donc avec EY à la fin.
Par rapport au progrès de la 3D et puis son apogée, hein, on peut dire même, et le cinéma, est-ce qu'il y a des films qui t'ont vraiment marqué ces dernières années sur l'aspect de l'espace?
Oui, il y a eu Interstellar, par exemple, que j'ai trouvé vraiment chouette, qui est des fois controversé dans la communauté scientifique, qui prend un peu des facilités, mais bon, c'est de la science-fiction, c'est aussi le principe. Un petit film aussi, qui est passé un peu inaperçu, qui s'appelle Proxima, qui est un film français, qui parle de l'exploration spatiale, qui s'est inspiré en fait de l'aventure de Thomas Pesquet lors de sa première mission dans la station spatiale, et qui prend ça sous le prisme un peu féministe, on peut dire, puisque ça parle d'une astronaute, donc on voit aussi les problématiques qu'elles peuvent avoir, les astronautes féminines. Proxima, oui, que je vous conseille de regarder. Alors ça, là, c'est pas du tout science-fiction, c'est vraiment un film
classique. C'est un documentaire.
Ça se rapproche presque du documentaire. Mais alors c'est une fiction, mais voilà, il n'y a pas de vaisseau intergalactique ou de sabre laser ou quoi que ce soit. Ça reste très très terre à terre et même littéralement, puisqu'on ne voit pas directement la mission, c'est concentré sur la préparation, l'entraînement que les astronautes doivent subir avant de s'élancer là-haut.
L'espace, c'est aussi le silence, du fait du vide d'air, donc il n'y a pas de possibilité à un son de pouvoir naviguer dans le vide. Est-ce que pour toi aussi, c'est une considération d'observation d'être dans un cadre presque silencieux ?
Oui, c'est vrai qu'en général, les observations, je pense pendant les rencontres d'astronomes, sont assez calmes, ouais. C'est une atmosphère calme, détendue et un peu intime. Ouais. Et je pense à... j'aime bien cette phrase de Blaise Pascal qui dit que le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie.
Eh bien Axel, je te remercie de nous avoir donné un peu de temps à Erdivois pour nous parler de ta micro-entreprise que tu lances et qui s'intitule Cosmodyssey. Je te souhaite une belle aventure à venir.
Et merci. Je peux rajouter un petit mot, j'y repense maintenant, mais c'est vrai que j'anime sur Radio Divois une émission qui est diffusée le dimanche matin, qui s'appelle L'Étoile Polaire, avec quelques autres férus d'astronomie du Diwa. Et voilà, une émission dédiée à l'astronomie, où on parle d'astronomie amateur, d'observation, on a un spécialiste de l'astrophoto aussi, qui nous parle des techniques d'imagerie. Un autre animateur qui est très calé en physique, donc qui... On ne va pas dire qu'il donne des cours, mais il donne des notions en tout cas d'astrophysique. Enfin voilà, je vous encourage à écouter L'Étoile Polaire le dimanche matin sur Radio Diwa.
Axel, bonne soirée.
Merci, à bientôt.
Au revoir.